Je suis Fia Ménard, j'ai 48 ans, je suis artiste de la scène, metteuse en scène, performeuse, artiste associée au Théâtre National de Bretagne, aussi artiste associée à la scène nationale de Chambéry, l'espace Malraux, dirigeante d'une compagnie qui s'appelle la compagnie Non Nova, fondée il y a 20 ans, qui est une équipe aujourd'hui de 42 personnes et avec un répertoire et des pièces qui tournent actuellement, puisque là, nous sommes actuellement avec Saison Sèche. Donc notre dernière création, présentée en première au Festival d'Avignon l'été dernier, qui revient ici à Rennes, lieu de création et lieu de passion. Dans un projet tel que je l'imagine lorsque j'imagine Saison Sèche, qui est un projet où je demande finalement à cette femme de détruire la maison du patriarche, j'ai d'abord été, il faut que je le recontextualise, dans la situation de mon propre corps, né homme, vécu dans la peau d'un homme pendant 30 ans et aujourd'hui depuis 18 ans la peau d'une femme. J'ai donc fait une expérimentation qui est celle de, dans l'espace, de vivre d'un côté et de l'autre, de vivre dans la peau de l'homme et de vivre la domination, sans me rendre compte que j'étais dominant. Et aujourd'hui, femme, dans la société, toujours avec une recherche de dire mais pourquoi je ne serais plus dominante mais maintenant je devrais être dominée et ou soumise. Donc une interrogation très forte de ce dialogue sur la hiérarchisation des sexes dans notre société et cette question essentielle, comment l'égalité, pourquoi l'égalité n'existe pas et pourquoi cette violence, pourquoi la soumission, pourquoi à ce point-là un déséquilibre et peut-être regarder la société sous ce spectre en me disant mais c'est assez fou, ça n'a aucun sens ce patriarcat, c'est un décor et c'est ce qu'on montre dans Saison Sèche hein, puisque à la fin du spectacle on voit bien que c'est un décor éventré posé dans un espace. Donc c'est pour ça que je dis que le patriarcat est une association de malfaiteurs avec un décor. Pour ça, l'expérience bien sûr de la vie, c'est-à-dire de connaître la permanence du corps féminin qui m'a fait découvrir le fait de passer du statut de chasseur à celui de la proie, de ne pas le comprendre, de ne pas comprendre sa justification et d'être obligé à chercher dans notre histoire. Ce qui m'a peut-être poussé d'entrée de jeu à aller dans des chocs. Je pense que le premier choc réel et dans les livres va être ce journal d'une femme à Berlin, d'un auteur inconnu, dont maintenant on connaît l'identité, hein, puisque c'est un journal qui a été écrit sur la période de avril 45 jusqu'à quelques mois après la fin de la guerre, qui raconte, qui est un journal d'une femme, qui raconte le quotidien à Berlin détruit sous occupation soviétique. Ben, elle raconte le statut de ces femmes qui auront été violées systématiquement, dont on ne saura jamais le chiffre, puisque l'histoire allemande a été justement à cet endroit-là très silencieuse, et même aujourd'hui, on voit que c'est un sujet toujours très épineux. Celles qui payent le prix de la guerre sont les femmes. Elles payent souvent le double prix, et celles-ci ont payé le prix, et que... après cette folie du nazisme, après cette violence du nazisme, après cette terreur, elles ont connu une autre terreur, ça a été d'être violée. Et elle raconte comment elle choisit son violeur et comment elle va devoir nouer une relation pour n'être violée que par une seule personne, de nouer une relation avec un violeur. Ce texte a été interdit pendant très très longtemps, il a mis des années et des années à être publié en Allemagne, il est d'ailleurs toujours passé sous silence, parce que je pense qu'on pourrait le mettre à toutes les guerres. Donc il m'a intéressé notamment en regard aussi avec la propre histoire que je connaissais en France de ces femmes comme ma grand-mère dont le mari avait été prisonnier pendant une grande partie de la guerre et qui au retour de la guerre avait vécu une relation difficile avec leur mari parce que on leur avait fait payer une double peine, c'est qu'elles avaient vécu la liberté, qu'on les accusait un peu à tort et un peu vite d'avoir bien vécu alors qu'elles n'avaient pas vécu, elles avaient simplement essayé de survivre. Et je trouve qu'à cet endroit-là, c'était l'objet même de la culpabilité faite aux femmes qui prenait naissance. Dans les recherches de livres qui vont arriver très très vite, il y a bien sûr Françoise Héritier, donc Masculin, Féminin, Penser la différence, et puis le deuxième tome, Dissoudre la hiérarchie. Il est évident qu'aujourd'hui, il faut absolument lire Françoise Héritier. Je pense que dans notre actualité, depuis presque 2 ans maintenant avec MeToo, l'affaire Weinstein, il est évident que les mots de Françoise Héritier sur cette recherche pour comprendre qu'est-ce qui a fait que notre société s'est bâtie sur une hiérarchie où l'homme a eu le pouvoir et notamment le pouvoir du contrôle des ventres des femmes, et comment il essaye d'exercer, comment la religion est venue s'inscrire dessus, mais bien avant aussi une certaine philosophie, celle d'Aristote notamment, et de comprendre notamment, et moi ce qui m'a passionné, c'est comment elle pose en hypothèse certaines questions, notamment sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment, lorsque nous vivions et nos ancêtres vivaient dans des grottes, qu'est-ce qui fait qu'à un moment il y a une telle différence de fonctionnement et que l'homme va à la chasse alors que la meute en elle-même allait à la chasse. Alors elle pose des hypothèses que moi je trouve assez fabuleuses, de dire mais peut-être qu'il faut penser à l'intervention du sang menstruel, et que peut-être quand on va faire la chasse tout en meute et que d'un seul coup une des femelles de la meute a ses règles, le sang menstruel trouble l'odorat des animaux et peut-être que la chasse est moins bonne. Et donc elle commence à poser des hypothèses comme quoi on part sur des situations qui aujourd'hui on pourrait les mettre en exergue en disant mais nous avons toujours cette même relation, comment nous renvoyons la période menstruelle des femmes à une incapacité, comment on va les incriminer, comment on va leur demander de faire disparaître absolument ça. Et donc aussi pour elle à cet endroit-là, et c'est ce qui est passionnant, notamment je pense dans Dissoudre la hiérarchie, où elle, je crois que c'est dans celui-ci, où elle évoque vraiment aussi comment les protéines animales et la répartition ont fait que les femmes sont restées plus autour de la grotte, ont commencé à travailler plus sur la cueillette, que il fallait préserver plutôt la viande pour les chasseurs, donc ils avaient les meilleurs morceaux, donc ils ont développé plus de masse musculaire, et que la différence du corps se serait faite sur une sorte de répartition comme ça, et que aujourd'hui on pourrait se reposer la question de la transformation de nos corps et de voir que peut-être sous un autre regard de notre société qui va vers de plus en plus d'automatisation, de remplacement par la machine des efforts, ça veut dire que la répartition des protéines en tout cas se ferait différemment et que les corps commenceraient plutôt à se ressembler, ce qui pourrait d'ailleurs être une vision assez logique si on regarde le monde. Donc à cet endroit-là, je sais que j'étais très intéressé notamment sur la question de la puissance et à quel endroit on a construit notamment ce mythe de la puissance associée au mal, et c'est ce que j'ai cherché à démontrer dans Saison Sèche, c'est de montrer que non, c'est l'homme en général, l'homme et la femme ont une capacité de puissance incroyable et que elle a simplement été beaucoup plus montrée du côté masculin et effacée du côté des hommes. Dans les objets qui restent pour moi très, très intéressants et que j'ai amenés et que j'amène très souvent, ce sont les bandes dessinées de Liv Strömquist, L'origine du monde, Les sentiments du prince Charles ou We are all the women, qui sont, je dirais, une mise en bande dessinée d'une manière absolument géniale des sujets. Dans L'origine du monde, on est vraiment dans la question de la criminalisation du corps féminin, donc comment la vulve n'est pas expliquée, comment on ne s'intéresse pas du tout au sexe féminin, et elle montre d'ailleurs un exemple très très beau, je crois, dans ce livre qui moi m'a fait énormément rire, sur la présentation des objets, du moins des corps sexuels, où elle raconte comme ça, ah bah oui c'est là, tiens, qu'on a envoyé dans la sonde spatiale Pioneer, lancée en 1972 par la NASA, une image inspirée de l'homme de Vitruve, où on voit un homme nu, la main droite levée, et une femme à côté. L'homme a, lui, un pénis bien dessiné, les bourses bien dessinées, et la femme, on peut s'apercevoir qu'elle a une poitrine, et qu'à la place du sexe, elle n'a qu'un triangle, et que ce triangle, eh bien, il n'y a rien. qu'on est en 1972, on envoie aux créatures extraterrestres le fait que la vulve n'existe pas, et elle se marre en disant « mais je pense que même les aliens et les extraterrestres sous-traînent notre gueule ». Parce que c'est l'objet du péché, c'est l'objet qu'on ne montre pas. C'est un moment absolument génial et délicieux de regarder comment, en effet, et à travers des penseurs, hein, Freud, des penseurs, un nombre incalculable, auront dénigré le sexe féminin, le rendant coupable, le rendant jusqu'à rendre coupable les femmes. Hein, c'est quand même cet objet-là. Les sentiments du prince Charles, bien sûr, qui est aussi un endroit formidable sur la relation homme-femme, donc la relation de pouvoir, hein, puisque ça nous raconte bien ça, et comment le comportement des hommes est toujours analysé ou celui des femmes par opposition, et aussi comment on voit la question de la domination. Dedans, on nous raconte vraiment ce que c'est que la domination avec des éléments, des exemples qui sont très très chouettes. Et je pense que c'est notamment des bandes dessinées à montrer, notamment aux ados et aux jeunes adultes, parce que c'est quand même assez génial de pouvoir toucher à ces thèmes-là par ce biais-là, c'est-à-dire la bande dessinée. Qui m'ont animé, bien sûr. J'ai repensé à Chloé Delhomme avec Les Sorcières de la République. Alors là, on est complètement dans de la forme d'anticipation. Chloé Delhomme imagine une société, je sais plus, je crois que c'est en 2020, la France a choisi l'amnésie collective, et on repart à zéro. Donc en fait, la société a accepté, et ce sont des sorcières qui ont pris le pouvoir et qui ont proposé un parti des sorcières, et qui propose en effet comme moyen d'échapper à cette histoire, et bien de l'oublier pour repartir à zéro. Et bien sûr, ça pose nombre de problèmes, et en fait le roman se passe au moment où on juge une des sorcières, celle qui est la penseuse, et on la juge dans un stade qui est le Stade de France, recouvert, fermé, puisque maintenant à cause du réchauffement climatique, puisque c'est quand même arrivé à ce moment-là, on est dans un endroit protégée, et on juge dans le stade cette sorcière qui doit répondre des actes d'avoir proposé cette amnésie collective qui fait tant difficulté, puisqu'en effet ça veut dire qu'il faut tout reconstruire. C'est très jouissif, en fait, pour moi c'est très jouissif comme livre. Dans les livres aussi qui, eux, traversent complètement mon travail depuis des années. C'est un livre pas facile à trouver, qui est réédité régulièrement, qui est plutôt un livre scientifique, puisque c'est un livre de Theodor Schwenk, Le chaos sensible, qui a un sous-titre qui sont les créations de formes par les mouvements de l'eau et de l'air. Alors vous comprendrez, si vous connaissez un peu mon travail, comme quoi cet élément est récurrent et primordial pour moi, c'est que en effet dans ce livre, qui est donc un livre scientifique, qui analyse sans arrêt la question de l'érosion, qui analyse sans arrêt la question de notre corps, comment notre corps fonctionne par rapport aux éléments extérieurs, et aussi de comment le monde se transforme. Et pour moi, c'est un livre essentiel parce qu'il est sans arrêt celui qui vient chercher et troubler le regard que nous avons sur nos actes, sur nos formes de gestes, et qui le renvoie avec l'endroit dont on voudrait toujours s'échapper, la nature, l'animalité. Et il passe son temps à nous rappeler que nous ne sommes que des mammifères. Bien sûr, nous sommes des êtres pensants, mais nous n'échappons pas, et là on le voit avec le réchauffement climatique, à la règle absolue. Nous ne sommes qu'un élément dans cette masse qui est le cosmos, et nous ne sommes qu'un élément macroscopique dans ce cosmos et lui renvoie cette question-là en permanence. Et pour moi, c'est passionnant parce que ça veut dire qu'à chaque fois, il me repose aussi un regard sur tout ce que je peux voir dans les œuvres, dans les choses, les interrogations, sur nos manières d'être, nos mouvements, nos déplacements. Je pense qu'il est essentiel pour moi, à mon imaginaire. Autant l'écriture de la scène est un endroit, et l'art de la scène est un endroit où je sais offrir une liberté au spectateur. Et j'aimerais offrir cette même liberté dans les mots que j'écris, alors ça me pose d'autres questions, qui sont en effet à quel endroit l'écrit dans ce que j'écris donne une possibilité de voyage et pas simplement une possibilité de compréhension. Et ça viendra sûrement, oui, ça viendra bientôt en fait. Mais il faut un peu de temps encore.